Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne podcast de Cessia. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un sujet passionnant et essentiel, l'accessibilité.
VoiceOver activé.
Si vous aimez plonger dans des discussions enrichissantes et explorer de nouvelles perspectives, vous êtes au bon endroit. Laissez-nous vos impressions en commentaire et embarquez avec nous pour cette aventure captivante.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on a une mission assez passionnante. On va plonger au cœur d'un document vraiment riche. C'est une fiche produit détaillée qui vient du site de Cessiaia.
Ouais, un site très spécifique d'ailleurs.
Exactement. Pour situer un peu le contexte pour ceux qui nous écoutent, Cessiaia, c'est une structure qui est spécialisée dans les technologies et les services pour l'autonomie des personnes en situation de handicap visuel.
C'est ça.
Et le document qu'on a sous les yeux aujourd'hui détaille un appareil très particulier. C'est l'enregistreur vocal IA. Plot de notes. Alors, c'est un petit boîtier qui est vendu à 169,90 €. Et sa promesse de base, elle est assez radicale.
Bah oui, complètement.
L'idée, c'est de pouvoir capturer, mémoriser et structurer des heures et des heures d'informations, mais sans jamais, au grand jamais, avoir besoin de prendre un stylo ou même de regarder un écran.
Et le véritable pourquoi de notre session d'aujourd'hui, l'angle qu'on va creuser, c'est vraiment de comprendre cette intersection entre, d'un côté, l'intelligence artificielle et de l'autre, un design matériel qui est ultra minimaliste.
Mmh.
Notre but, c'est d'analyser comment cette combinaison très précise devient un vrai vecteur d'autonomie et d'inclusion. Il s'agit de découvrir comment une technologie qui a l'air super simple en apparence arrive à repenser totalement la prise de notes au quotidien. Et ça, c'est valable pour les personnes aveugles ou malvoyantes, bien sûr, mais par extension pour n'importe quel utilisateur qui cherche à se libérer de l'écran.
Ouais, c'est fascinant. Du coup, décortiquons un peu tout ça, parce que les caractéristiques physiques de l'appareil causent tout de suite le décor. La fiche technique de notre source met en avant une miniaturisation vraiment extrême.
Ah oui, c'est bluffant.
On parle d'un objet qui fait 85,6 mm de long.
C'est minuscule.
Sur 54,1 mm de large. Et surtout, l'épaisseur, c'est à peine 2,99 mm. Et le poids annoncé, c'est seulement 30 grammes. Le tout encapsulé dans un boîtier en alliage d'aluminium.
Ouais.
Mais concrètement, au-delà de ces chiffres un peu bruts, la question que je me pose, c'est comment on intègre un truc pareil dans sa routine sans risquer de le perdre ou de l'oublier au fond d'un sac?
En fait, si on traduit ces dimensions en un objet du quotidien que tout le monde connaît, on parle essentiellement du format et de l'épaisseur d'une carte de crédit standard.
Ouais, c'est littéralement une carte bleue.
Exactement. Et c'est ce qui rend la méthode de fixation super logique. La source indique que l'appareil est fourni avec un étui et un anneau magnétique MagSafe.
Ah, le MagSafe, bien sûr.
Voilà. L'idée, c'est de venir plaquer l'enregistreur directement au dos d'un smartphone. Et en faisant ça, on supprime totalement la nécessité de penser à prendre un appareil supplémentaire avec soi le matin.
C'est clair. On a toujours notre téléphone sur nous de toute façon.
C'est ça. Le téléphone devient le support physique de l'enregistreur. C'est une approche de l'ergonomie qui est très intelligente. On vient greffer une nouvelle fonction sur un objet qui est déjà totalement intégré dans les habitudes tactiles et motrices de l'utilisateur.
Et en parlant d'habitudes tactiles, il y a un élément de design qui m'a sauté aux yeux en lisant le document, ou plutôt qui évite justement d'avoir à utiliser ses yeux.
Le bouton unique.
Exactement. Le document insiste vraiment sur le fait que l'appareil fonctionne avec un seul et unique bouton. Je trouve que c'est un choix fort, surtout à une époque où le moindre gadget est couvert d'écrans tactiles, de sous-menus, de trucs à faire glisser.
Oui, ce minimalisme matériel, il répond en fait à une nécessité absolue d'accessibilité. Faut bien comprendre que la suppression de l'écran tactile, c'est pas juste un choix esthétique pour faire joli ou épuré, c'est l'élimination pure et simple d'une barrière.
Je vois.
Dans un monde où la quasi-totalité des interfaces exige une attention visuelle soutenue pour naviguer, proposer un bouton physique unique avec un relief qu'on peut repérer instantanément au toucher, ça redonne un contrôle immédiat.
L'action devient binaire, en fait.
Totalement. C'est presque un réflexe. On appuie, ça marche. Ça ne dépend plus du tout de l'acuité visuelle de la personne qui l'utilise.
Ce qui soulève quand même une question d'usage assez évidente. Si on ne regarde pas l'appareil et qu'il n'y a pas d'écran pour afficher le petit point rouge classique qui clignote, comment on a la certitude absolue que l'enregistrement a bel et bien commencé quand on appuie sur ce bouton?
C'est une excellente question.
L'AFIS produit mentionne un système de retour d'informations spécifique pour pallier ça, non ?
Ouais, le texte précise que chaque pression déclenche un retour sensoriel. Ça peut être un retour sonore ou bien sous forme de vibration. Et ça, c'est une mécanique de confirmation qui est littéralement vitale.
Une petite vibration dans la main, du coup.
C'est ça. L'utilisateur ressent ou entend que l'appareil s'est activé. Si on analyse ce détail très simple sous le prisme de l'expérience utilisateur globale, en fait, ça génère un truc fondamental. C'est la confiance.
Ouais, il n'y a pas ce stress de se dire « mince, est-ce que ça enregistre vraiment ?»
Exactement. L'angoisse de rater l'enregistrement d'une réunion importante, d'un rendez-vous médical ou d'un cours magistral, elle est dissipée instantanément par cette simple vibration dans la paume de la main. La technologie devient invisible, mais sa fiabilité est communiquée de manière complètement palpable.
C'est très fort. Et cette réflexion sur le design inclusif, elle s'étend d'ailleurs bien au-delà de l'utilisation de l'appareil lui-même. Notre source partage une anecdote que je trouve fascinante sur l'expérience de déballage, le fameux unboxing.
Ah oui, l'emballage, c'est un point crucial.
On sait très bien que pour beaucoup de produits tech aujourd'hui, retirer le film plastique hyper serré ou trouver les petits rubans adhésifs transparents sur les bords de la boîte, ça demande une précision visuelle et une motricité fine qui sont considérables.
C'est un cauchemar pour beaucoup de gens.
Mais ici, le packaging a été pensé totalement différemment. Le texte décrit la présence de deux languettes qui sont situées au dos de la boîte, en haut et en bas, et il suffit de tirer ces languettes horizontalement pour désolidariser le couvercle du socle. Pas besoin de chercher un point d'ouverture caché ou d'aller chercher un couteau dans la cuisine.
Cette attention portée à l'emballage, elle démontre vraiment que l'accessibilité n'a pas été traitée comme une petite rustine logicielle qu'on rajoute à la dernière minute.
C'est pensé dès le départ.
Voilà, c'est une démarche holistique. Penser à l'inclusion dès la conception de la boîte en carton, ça prouve une compréhension très fine des obstacles du quotidien. Parce que l'expérience utilisateur, elle commence au moment de l'achat et de l'ouverture du produit.
Oui, si tu dois demander de l'aide à quelqu'un juste pour ouvrir la boîte, c'est raté.
Exactement. Si la première interaction est frustrante et nécessite l'aide d'un tiers voyant, la promesse d'autonomie de la marque est brisée avant même d'avoir allumé l'appareil. Ces languettes garantissent que la découverte du produit reste une expérience totalement indépendante et fluide.
Bon, entrons maintenant un peu dans les spécifications techniques de la capture audio en elle-même. La fiche mentionne que le modèle de base est équipé de deux micros MEMS et d'un VPU. Alors, pour aider à bien cerner ces termes techniques, comment on peut traduire ça en termes de capacité réelle sur le terrain ?
Alors, les micro-MEMS, ce sont des systèmes micro-électromécaniques. Bon, sans faire un cours d'ingénierie complexe, ce sont tout simplement des composants acoustiques extrêmement miniaturisés, mais qui offrent une très haute fidélité sonore.
D'accord. Et le VPU ?
Le VPU, c'est une Voice Processing Unit, ou unité de traitement de la voix. C'est une petite puce dédiée qui se charge spécifiquement de filtrer l'audio pour isoler la parole humaine des bruits ambiants.
Ah, c'est super pratique ça, pour les bruits de fond, les chaises qui grincent.
Exactement. Et le document indique que cette combinaison matérielle permet une portée de captation qui va jusqu'à 3 mètres. Donc c'est un rayon d'action qui est parfaitement calibré pour capter clairement un groupe de personnes autour d'une table de réunion ou un professeur qui se déplace légèrement devant son tableau.
Et tout ça, c'est soutenu par une autonomie annoncée de 30 heures d'enregistrement continu. Je trouve que c'est une réserve d'énergie massive pour un appareil de la taille d'une carte de crédit. Ça permet carrément d'enchaîner plusieurs journées de travail sans jamais chercher une prise électrique.
Ouais, c'est un confort énorme.
Mais l'enregistrement brut, ce n'est que la première étape. Le document explique que la véritable bascule s'opère après la capture, au moment où l'audio est synchronisé avec l'application dédiée, l'Upload App, qui est disponible sur l'Apple Store et Google Play. C'est là que l'intelligence artificielle entre en scène.
Ce qui est fascinant ici, c'est que le traitement des données post-enregistrement, c'est le cœur névralgique de tout le système. Parce que capturer 30 heures d'audio, c'est bien, mais l'exploiter ensuite, c'est une autre paire de manches.
Surtout quand on doit tout réécouter.
Voilà. Et c'est là que l'intelligence artificielle intégrée à l'application prend ce fichier audio brut et le transforme automatiquement en une transcription textuelle complète. Et elle va encore plus loin puisqu'elle est capable de générer des résumés structurés de la conversation. On passe vraiment d'un bloc sonore inerte à un document de travail formaté et lisible.
Et justement, la question de cette lisibilité, ça nous amène à un point crucial soulevé par la source. Beaucoup d'applications modernes sont visuellement très abouties, très belles, mais leurs boutons et leurs menus ne sont pas étiquetés correctement dans le code, ce qui les rend complètement inutilisables pour les lecteurs d'écran natifs des smartphones.
Oui, c'est un problème récurrent dans le développement d'applications.
Or, le document affirme que l'application Plaud est pleinement compatible avec VoiceOver sur les systèmes Apple et Tallback sur les systèmes Android. J'imagine que c'est une condition sine qua non pour que le produit respecte sa promesse initiale d'autonomie pour les personnes déficientes visuelles.
C'est même vital. Cette compatibilité native garantit que la boucle d'usage est fermée et cohérente de bout en bout. Depuis la pression physique du bouton d'enregistrement jusqu'à la lecture du résumé généré par l'IA, l'ensemble du processus est pensé pour être navigué à la voix et au toucher.
L'application ne bloque pas l'outil du téléphone.
Non, au contraire. Le lecteur d'écran du smartphone peut vocaliser toute l'interface de l'application sans rencontrer de mur logiciel. L'utilisateur peut parcourir ses notes, lancer la lecture des résumés ou fouiller dans les transcriptions de manière totalement autonome.
Et si on s'arrête un instant sur l'impact quotidien de cette automatisation. La fiche produit explique que les enregistrements sont classés chronologiquement et que la synthèse vocale lit le texte généré. On mesure l'allègement incroyable de la charge mentale quand on n'a plus à écouter un fichier audio de 2 heures en accéléré à l'aveugle juste pour retrouver un chiffre précis donné lors d'une réunion.
Le bénéfice cognitif est colossal. Et alors, pourquoi Genitaille ? Traditionnellement, retrouver une information dans un enregistrement vocal, ça exige un effort de recherche linéaire. Il faut avancer, reculer, écouter des passages qui ne sont pas pertinents. C'est une tâche profondément chronophage et épuisante.
Je déteste faire ça, personnellement.
Personne n'aime ça. Ici, l'IA absorbe ce travail fastidieux d'écoute et de structuration. L'utilisateur accède directement à la substance de l'information via la transcription ou le résumé. L'énergie mentale n'est plus dépensée dans la recherche de la donnée, mais dans son assimilation et son utilisation. C'est un gain de temps et d'efficacité majeur, particulièrement précieux en milieu professionnel ou universitaire.
Poursuivons notre analyse du document, car CCIA ne s'arrête pas à cette version classique du Plaloud Note. La fiche inclut un tableau comparatif avec un modèle supérieur qui s'appelle le Plaloud Note Pro.
Intéressant de voir la montée en gamme.
Oui, regardons de plus près les évolutions qui sont proposées. Déjà, sur le plan de la captation, on passe de 2 à 4 micromèmes. La conséquence directe annoncée, c'est une extension de la portée de captation qui passe de 3 mètres sur le modèle de base à un maximum de 5 mètres sur la version Pro.
Cette augmentation de la portée, ça modifie clairement le champ des possibles. Passer à 5 mètres, ça permet d'envisager des environnements acoustiques beaucoup plus vastes et complexes.
Comme des grandes salles de cours.
Exactement. On pense aux grands amphithéâtres universitaires, aux salles de conférences étendues, ou même à des situations de prise de son en extérieur, où l'intervenant est un peu plus éloigné. Les 2 microphones supplémentaires apportent une meilleure triangulation et une captation beaucoup plus fine de la source sonore à distance.
Le tableau comparatif met également en lumière une évolution de la gestion de l'énergie. Le modèle classique embarque une batterie de 400 mAh pour 30 heures d'enregistrement. La version Pro, quant à elle, intègre une batterie de 500 mAh.
Une belle augmentation.
Oui, et la fiche mentionne une spécificité logicielle pour ce modèle Pro. Il propose 2 modes distincts. Un mode amélioré qui conserve l'autonomie de 30 heures, très probablement pour exploiter pleinement l'énergie demandée par les 4 micros, et un mode endurance qui étire la capacité d'enregistrement continu jusqu'à 50 heures.
50 heures d'audio.
C'est énorme. À noter d'ailleurs que les 2 versions partagent une autonomie de 60 jours en mode veille.
Ce fameux mode endurance de 50 heures, il s'adresse vraiment à des profils d'utilisateurs qui évoluent loin de toute infrastructure de recharge pendant de longues périodes.
Je vois le genre.
Typiquement des journalistes sur le terrain ou des professionnels en déplacement prolongé. Savoir qu'on dispose de plus de 2 jours complets d'enregistrement ininterrompu, ça apporte une immense tranquillité d'esprit. D'autant que le document précise que la recharge complète s'effectue magnétiquement via USB-C, ce qui est très standard aujourd'hui.
Une autre différence notable se situe au niveau de la connectivité. Le Plaloud Note classique s'appuie sur le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi à 2,4 GHz. Le Plaloud Note Pro monte en gamme avec le Bluetooth 5.4 et intègre un module Wi-Fi double bande, gérant à la fois les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.
Une connectivité plus robuste pour des transferts plus rapides vers l'application, certainement.
Tout à fait. De plus, la fiche technique indique que le modèle Pro est doté d'une finition en verre Corning Gorilla, un matériau réputé pour sa résistance aux rayures, qui vient s'ajouter au châssis en alliage d'aluminium. Mais au milieu de toutes ces améliorations matérielles, il y a une ligne du tableau comparatif qui a particulièrement attiré mon attention.
Ah oui, je vois très bien de quoi tu parles. Le point fascinant de cette comparaison, il réside effectivement dans ce qui ne change pas.
C'est ça. L'ajout d'une batterie plus grosse, de 2 microphones en plus, de puces de connectivité plus complexes et d'une plaque de verre renforcée, Logiquement, ça aurait dû impacter le gabarit de l'appareil. Ça aurait dû le rendre plus épais ou plus lourd.
Et pourtant, les dimensions restent figées à 85,6 par 54,1 par 2,99 mm. Le poids demeure invariablement à 30 grammes. Même la capacité de stockage interne reste identique, bloquée à 64 gigaoctets.
C'est un maintien hyper strict des proportions qui soulève vraiment une question sur l'intention des ingénieurs. Pourquoi s'imposer de telles contraintes de conception pour garder un gabarit au millimètre près et au gramme près, plutôt que d'assumer un appareil très légèrement plus grand pour loger plus facilement ses nouveaux composants?
Ce choix d'ingénierie traduit une volonté extrêmement claire de préserver intégralement la mémoire tactile et musculaire de l'utilisateur.
Ah, la mémoire musculaire, bien sûr!
Pour une taxonne déficiente visuelle, repérer, manipuler et utiliser un outil quotidien repose énormément sur des automatismes physiques. Le poids dans la main, la finesse sous les doigts, l'encombrement dans la poche ou au dos du téléphone, ce sont des repères constants et rassurants.
On ne veut pas perturber ces repères.
Exactement. En maintenant ces caractéristiques physiques rigoureusement identiques entre le modèle classique et le modèle pro, on évite toute courbe d'apprentissage ou de réadaptation. L'utilisateur peut monter en gamme technologiquement, avoir de meilleurs micros et une meilleure batterie, sans avoir à modifier le moindre de ses gestes. La technologie évolue à l'intérieur, mais l'expérience ergonomique extérieure reste familière.
C'est une démarche brillante, où le matériel s'efface réellement au profit de l'usage. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on prend un peu de recul sur l'ensemble des informations de cette source, l'image globale est assez frappante.
Oui. On est face à une évolution majeure.
Ce plot de notes, qu'il soit en version classique ou pro, n'est pas un simple espace de stockage pour des mémos vocaux. L'appareil illustre de manière très concrète comment l'intelligence artificielle peut être utilisée non pas pour ajouter de la complexité sur un écran, mais pour supprimer totalement le besoin d'un écran.
Tout à fait.
L'éthique MagSafe, simple, est d'une application de transcription parfaitement imbriquée avec les lecteurs d'écran comme VoiceOver et TalkBack, ça crée un écosystème très cohérent. L'objectif atteint, c'est de redonner la maîtrise de la prise de notes, du classement et de l'analyse d'informations complexes à celles et ceux pour qui les interfaces purement visuelles constituent un obstacle quotidien.
Cette exploration de la fiche technique nous pousse vers une réflexion plus globale sur la trajectoire du design technologique. On observe ici un appareil de la taille et du poids d'une carte de crédit qui est dépourvu de tout affichage visuel, mais qui est capable de capter l'environnement sonore pendant des dizaines d'heures. Ensuite, il s'appuie sur l'IA pour structurer et résumer cette matière brute, le tout manipulable par un simple retour haptique et des commandes vocales.
C'est un vrai changement de paradigme.
Ce qui amène à se poser une question fascinante. Si une tâche aussi complexe que la prise de notes et la synthèse documentaire peut aujourd'hui se libérer entièrement de la contrainte de l'écran, quelles autres actions de notre quotidien, actuellement prisonnières de nos dalles tactiles et exigeant notre regard constant, pourraient demain devenir complètement invisibles ? On peut imaginer des tâches gérées de manière totalement fluide dans notre environnement par le seul biais du toucher et de la voix.
Objets connectés qui nous entourent. C'est fascinant d'observer comment la conception centrée sur l'accessibilité finit souvent par ouvrir la voie à des usages plus épurés et plus efficaces pour tout le monde. C'est ici que s'achève notre analyse de ce document. Il y a énormément de matière à réflexion sur la manière dont l'intelligence artificielle, couplée à un design intentionnel, peut remodeler notre accès à l'information. Merci d'avoir suivi cette exploration détaillée avec nous. Continuons à observer avec attention ces innovations silencieuses qui transforment concrètement le quotidien. À très bientôt pour une nouvelle analyse.
Merci infiniment à tous nos abonnés d'avoir écouté le podcast de Cessia, le podcast de l'accessibilité. Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous et avons hâte de vous retrouver pour un nouveau podcast. Vos idées et suggestions nous inspirent, alors n'hésitez pas à nous les partager. À très bientôt et prenez soin de vous.